aujourd'hui ce que je voulais vous faire un petit peu, c'est quelques grandes orientations, les grandes orientations des exercices spirituels que vous pouvez faire pour la spiritualisation du corps. Avec une petite explication, mais rapide, parce que j'ai pas envie de m'y étendre, même si ça passionne, les idées fixes, n'est-ce pas? Mais sans vouloir m'étendre, c'est que... Puisque, pourquoi est-ce que... Pour quelle raison est-ce que... il est extrêmement important pour les pouvoirs mondiaux de déséquilibrer les champs morphogénétiques de l'humanité. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est très important parce que du coup, on va pouvoir empêcher précisément la spiritualisation du corps. La spiritualisation des hommes jusque dans leur chair. Satan, c'est mieux que les chrétiens, évidemment. Par quoi il doit être vaincu. Il doit être vaincu par le Christ. Il le sait bien. Mais le Christ, lui, a confié à son corps de rédemption. Ce pouvoir d'amour, de lumière et de grâce, de transmettre cette victoire sur le mal. Et le démon, mais également les grands initiés, sont évidemment capables de savoir que à la fin des temps, c'est évidemment par la transmission spirituelle de cette grâce jusque dans le corps de l'homme et de la femme que ces mérites du Christ vont se manifester pour écraser la tête du serpent antique. Voilà pourquoi il y a cette très 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 profonde, pas tellement occulte finalement, bizarrement pas tellement occulte, mais c'est cette profonde lame de fond pour désorganiser le corps humain par rapport à son identité spirituelle, par rapport à sa respiration spirituelle, par rapport à sa vocation spirituelle et par rapport surtout à sa réceptivité divine dans l'ordre de la grâce rédemptrice. Pourquoi s'acharner par exemple à vouloir une norme de la libéralisation du clonage? Pourquoi s'acharner à ça? On sait très bien que d'utiliser des cellules souches adultes, c'est quand même beaucoup moins risqué, c'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup plus efficace. Cellules souches adultes par rapport à des cellules souches embryonnaires issues du clonage. On a bien vu, quand vous avez expliqué la production d'une cellule originelle, que évidemment que si le DNA est en harmonie avec l'ADN, c'est quand même plus sain, plus juste, plus naturel et moins risqué que quand le DNA n'est pas celui qui est adapté à l'ADN, ce qui est le cas du clonage. À raison de quoi, même les choses thérapeutiques vont faire des choses gravissimes sur le plan thérapeutique, avec des ruptures moléculaires, etc., tout à fait terrible. Donc c'est quasiment impossible d'arriver, il sera avec des cellules souches issues du clonage, de faire du thérapeutique. C'est infiniment plus difficile d'y arriver qu'avec des cellules souches adultes. Donc pourquoi s'acharner? Puisque ça n'a aucun intérêt sur le plan thérapeutique, aucun intérêt sur le plan économique, strictement aucun intérêt sur... C'est uniquement parce que il faut absolument disloquer toutes les lois naturelles de notre univers qui sont en lien avec les lois anthropomorphiques qui sont inscrites dans les origines de l'homme. Et ça, c'est des choses qu'on connaît sur le plan scientifique. Les derniers grands colloques internationaux avec Hawkins, Walker, etc., ont finissent par, à force de concentration, de convergence, on s'aperçoit que les principales lois de notre univers sont en harmonie, en résonance, si je peux dire, avec les lois anthropomorphiques des origines de l'homme. Donc en perturbant, collectivement, en rendant normal, légal et généralisé l'autorisation que se donne la psychologie collective de rentrer dans ses origines pour y introduire de manière donc censée être juste dans l'esprit collectif une perturbation, ça, non seulement ça évacue, c'est l'autorité de l'homme qui évacue la possibilité de l'émanation d'émotions divines de la providence paternelle de Dieu dans notre univers, puisque je vous ai expliqué comment saint Thomas d'Aquin explique l'émanation et le rayonnement de ces émotions divines dans l'ensemble de l'univers à partir précisément de son acte créateur à chaque création d'un être humain. C'est le seul moment où Dieu se rend présent dans notre univers, c'est quand il crée un être humain. C'est pas quand il crée un ange, puisque les anges sont tous créés depuis longtemps. Ils ont tous été créés dans le même instant et avant la création de la matière. Le temps n'existait pas encore que les anges étaient créés. Parce que le monde angélique enveloppe le monde du temps. Et le monde angélique enveloppe le monde du temps. Et les animaux ne sont pas créés. Quand il y a un lapin qui arrive, qui conçut la première mitose d'un petit lapin, il n'y a pas d'intervention du Créateur. Aucune, zéro, pas la moindre. Et quand il y a une intervention du Créateur pour recréer toute chose dans une transsubstantiation sacramentelle, par exemple, il n'y a pas d'intervention du Créateur. C'est une intervention qui passe par la médiation des apparences sacramentelles. Des apparences sacramentelles, la transsubstantiation. Quand on dit la messe, ce n'est plus du pain, ça devient substantiellement le corps du Christ. Donc la transsubstantiation, c'est par voie surnaturelle, donc c'est pas par voie naturelle. Tandis que dans la nature, la manière dont Dieu rend présent, c'est le rayonnement de sa présence providentielle, mais qui a un support donc dans l'ordre de la nature, c'est vraiment à chaque fois qu'un être humain est créé. C'est le seul, c'est la sagesse créatrice de Dieu a voulu mettre comme origine, source de motion divine paternelle de Dieu dans l'univers, en titre de présence physique, métaphysique et paternelle, que cette première cellule de l'être humain, au moment où il surgit pour créer, et donc selon le processus que je vous ai expliqué, et qui a été donc expliqué dans ses principes par le Saint-Père. D'accord ? Vous voyez bien ? Donc de venir justement là, dans ce saint des saints, pour introduire justement une transgression métaphysique universelle, donc, c'est-à-dire universelle parce qu'elle est admise, ce que je vous explique maintenant, si elle est admise, engendrée et décidée au niveau collectif et mondial par tous ceux qui représentent démocratiquement l'ensemble de la population mondiale, sachant que la population mondiale, elle, y met une certaine capacité passive. C'est ce que l'ange Gabriel avait expliqué au prophète Daniel, le jour où donc l'humanité fait ça, ça y est, la transgression est installée dans le sein des saints, dans le sanctuaire de l'arbre de la vie, et donc ça y est, c'est la fin. D'accord ? Donc nous sommes donc maintenant au 28e jour du deuxième mois. Les temps ont changé il y a un mois, oui, mais c'est la France qui décide. Et tous les Illuminati au niveau mondial ont tout fait pour que ce soit la France qui décide. Et en France, il fallait que ce soit uniquement des catholiques pratiquants et il fallait qu'il y ait un assentiment, j'allais dire, il fallait qu'il y ait un assentiment implicite et même explicite de la part des pasteurs catholiques de France et de la part de leurs acteurs les responsables. Donc, c'est-à-dire que c'est uniquement les catholiques pratiquants qui sont les acteurs directs de cette abomination transcendantale. sachant qu'aucun laïc, aucun athée, aucun protestant, aucun franc-maçon n'y a mis le doigt. Enfin bon,
directement.
Aucun. Ils sont simplement accompagnés, le mouvement, que les responsables qui étaient catholiques pratiquants ont. Donc ça, c'est très important. C'est très très important pour que ce soit la fille aînée de l'Église, quand la fille aînée de l'Église, que ce soit des catholiques pratiquants, etc. Alors, c'est très important, sinon il n'y aurait pas de Chicoutsi, mais je même. Parce qu'il faut que ce soit les responsables du monde, ceux qui ont la plus haute responsabilité. Dans le monde, les Illuminati savent très bien que devant Dieu, la plus grande responsabilité, c'est les chrétiens.
Et pourquoi c'est la France?
Parce qu'en France, la fille aînée de l'Église, c'est le nouvel Israël. Dans la tradition, oui. Donc, tout ce qui se fait bien en France se frappe bien dans le monde, tout ce qui se fait mal en France se répand dans le monde. C'est pour ça que le règne du Sacré-Cœur, il se répandra dans le monde entier à partir de la France.
Quito. Pardon.
Quito, c'est la France. Alors. Monsieur. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, évidemment. Il y a donc tout ce que je voulais dire, mais très rapidement, parce que finalement on a très peu de temps. Très rapidement, il y a toute une panoplie. Ça, c'est la grande lame de fond pour désorganiser les champs morphogénétiques. Je vais expliquer ce que c'est des champs morphogénétiques, comment ça fonctionnait avec les fréquences tachyoniques, au plan philosophique, hein, donc au plan anthropologique et au plan collectif. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est cette lame de fond qui peut faire cette espèce de fente, de brisure. L'assiette va être fêlée. L'assiette de la collectivité humaine va être fêlée. Alors, c'est-à-dire qu'on pourra toujours manger dans l'assiette. Il ne faudra pas mettre de soupe, hein, parce que sinon ça passe sur la nappe. On peut toujours prendre de la viande. On ne pourra pas mettre de soupe dans l'assiette. L'assiette est fêlée. Quand l'assiette sera fêlée, vous voyez. Mais il y a toute une panoplie qui est préparée en même temps, simultanément, hein, et qui, de manière à accompagner par amplification l'ensemble des manipulations sur les territoires, sur les villes, sur les cités, sur les maisons, sur les personnes, ou sur les familles, ou sur une réunion municipale, ou un conseil ministériel, vous voyez, ou une discussion à l'Assemblée nationale, ou n'importe où, à l'ONU, etc. Donc il y a toute une panoplie d'armes. Qui sont maintenant très très, qui sont bien mises au point, et que ça c'est cet aspect-là de la question, ça c'est simplement que c'est des circuits parfaitement repérables aujourd'hui, puisque ce sont celles qui sont organisées avec une très grande dextérité dans les athlètes WESOPT. Hein. Pour vous donner par exemple un exemple de perturbation possible. Vous savez par exemple que d'où est venu le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, c'était pendant la guerre 39-45. Il y avait un soldat qui était là, dans la tranchée, et puis il y avait une ligne tension qui était au-dessus, et puis son œuf, il s'était rendu compte que son œuf, au bout de 2 heures, il était cuit, quoi, il commençait à devenir blanc. Alors il a réfléchi, et c'est à partir de ce principe-là qu'on a fait le four à micro-ondes. Bon, mais c'est un petit peu pour, avec des mêmes. Petit à petit qu'on découvre des phénomènes comme ça dans la nature qui avec des rayonnements qui ne sont pas forcément des rayonnements magnétiques, qu'on découvre un certain nombre de phénomènes d'interactions moléculaires, vibratoires, ce que vous voulez, chaleur, radionique, radioactivité, etc. Quand il y a eu un satellite russe en 1982 qui avait 60 kg de plutonium radioactif qui a explosé. C'était Orgos 584, sauf erreur, quelque chose comme ça. Et il a explosé. Alors, cette explosion a produit, ce qui est accidentel, a produit un champ radioactif, vous voyez, à 280 km au-dessus de la Terre. faire, hein, ça ne va pas se faire. Alors il se trouve qu'à 270-80 km de la Terre, la stratosphère est remplie de champs ionisables. Ce sont des gaz ionisables qui, sous l'effet donc, d'une expansion un petit peu de radiation atomique, les ions sont libres. Donc ils se forment les uns les autres et ils forment une espèce un bouclier qui fait que les ultraviolets et les rayonnements donc solaires, par exemple les ultraviolets, mais aussi les rayons, ça va me revenir. Vous connaissez tout ça, hein, Mansour. Le soleil nous envoie des ultraviolets, il nous envoie des. Non, des rayonnements. Bon, ça va, mais c'est pas grave, si vous savez tout ça. Donc ça fait un bouclier, et du coup ça passe plus. Ça passe plus. Le résultat, c'est comme ça, ça passe plus. L'air chaud a tendance à se concentrer en dessous de ce bouclier. Les ultraviolets ne passant plus, ni les rayons cosmiques du soleil. Alors, du coup, à cause de ça, il y a une dépression qui se fait chaleur-froid. Ça se rassemble autour et ça a provoqué donc des catastrophes climatiques qu'on a repérées immédiatement. On a repéré immédiatement, c'est ce qui a provoqué, par exemple, donc c'est venu et puis ça s'est déplacé comme ça. Parce que la Terre, elle tourne comme ça, donc ça se déplace d'ouest en est, et ça, cette trace a se déplacé. Et ça a fait famer les fameuses, vous vous rappelez de ces inondations effroyables qu'il y a eu les années 83 ou 4 à Nîmes, je sais pas où, enfin bon, et ça fait à certains endroits ça provoque des sécheresses, à d'autres endroits ça provoque, bon. Il y a eu un deuxième accident d'un Spoutnik russe du même ordre, dans 10 ans après, il y a eu un troisième et même des essais qui ont été faits exprès. Et malheureusement, et grâce à ça, ils se sont rendus compte que quand on utilise les champs plasmiques qui sont à 270 km, on peut faire des boucliers. Et à partir de là, ils ont fait donc des expérimentations pour les fameuses armes du combat eschatologique dernier. C'est un des éléments de la panoplie. J'ai pas le temps de vous expliquer tous les éléments de la panoplie. La guerre eschatologique finale utilisera pratiquement tous les éléments de la matière, tous les éléments vibratoires, tous les éléments des champs tachyoniques, tous les éléments des manipulations mentales collectives, tous les éléments des ouvertures de chakras, j'allais dire ontologiques, de la première cellule, qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été ouverts, tous les éléments de la manipulation, donc métapsychique collective individuelle, et enfin tous les éléments, bien sûr, de l'association avec les puissances intermédiaires. Voilà. En fait, ça va jouer sur les six plans en même temps. Et ce sur quoi je viens maintenant, c'est vous une petite explication sur les armes qui correspondent au réseau HARP. Donc vous avez entendu parler du réseau HARP, vous avez trois grands champs officiellement, il y en a un peu plus, mais pas beaucoup plus en fait. Trois grands champs, c'est des immenses antennes qui font 40 mètres de hauteur, et vous avez une centaine, 120-130 antennes qui rayonnent des arcs, j'allais dire, électriques. Grâce auquel on peut envoyer avec un rayonnement laser à 270 km de hauteur, de manière à provoquer des champs magnétiques qui sont de même vibration que les phénomènes d'explosion qu'on avait constatés dans ces fameux accidents. Skylab 584, je crois, comme ça. Et dans Skylab, c'était un Américain qui. Bon, je passe là-dessus. C'est tout simple, j'envoie donc deux rayons avec à une distance très particulière l'un de l'autre, de manière à former donc un circuit comme ça ondulatoire qui produit le même effet que l'effet d'une radiation atomique. Alors à ce moment-là, le plasma, les ions se rassemblent, forment un bouclier dont je peux déterminer à l'avance, bien sûr, la largeur, la hauteur, la profondeur, de manière bien sûr. Et j'utilise du coup les spoutniks qui sont au-dessus encore, et de la Terre, je peux donc envoyer,
je peux envoyer un champ visuel, je peux envoyer un champ auditif, selon, je peux envoyer un champ radionique, vous voyez, qui correspond aux ondes θ, bêta ou alpha, ce que je veux, vous voyez. Et je peux faire ce que toi tu fais par voie mécanique, je peux, comme d'autres ostéopathes le font, je peux très bien l'envoyer par exemple sur un groupe d'hommes, de soldats ou sur une maison, et de manière à les transformer en légumes, à les dynamiser, à les exciter au meurtre, etc. Bon, donc, c'est pas très compliqué. Je peux même provoquer des voix, puisqu'il suffit que je mette les fréquences à l'intérieur, même de leur oreille interne, ou même un petit peu à l'extérieur. Il suffit que je rencontre le champ vibratoire des êtres humains qui sont là, et puis avec une fréquence qui est calculée pour ça, elle rebondit et tu entends une voix. Et la voix, elle peut très bien te dire, voilà, je suis Jésus, je t'ai choisi. Et tu, vous pouvez aussi provoquer avec... vous pouvez faire ce que vous voulez. La guerre d'Irak, d'après certaines choses qu'on m'a fait passer, c'était un des trois buts de la guerre d'Irak, c'était d'essayer ces armes sur le conditionnement qu'on pouvait opérer sur un groupe de soldats ou sur une maison je peux même ici, bien sûr, parce que c'était un des buts, hein, c'était la possibilité de rentrer dans des... c'est vraiment incroyable. À partir de ça, je rayonne, je vise un bunker, une maison, et je sais que, par exemple, en dessous, à 200 mètres, il y a des ordinateurs, etc. Donc je peux rentrer dans les champs électriques qui les plus proches, et faire rentrer, grâce au circuit électrique qui rentre au fond, avec... Il suffit de prendre la fréquence électrique en question, rentrer dans les ordinateurs, pomper tous leurs éléments, comme ça à distance. Et puis aussi faire exploser leur ordinateur. C'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire maintenant, que ce soit sur le plan technologique ou pas sur le plan technologique. Le troisième type de technologie auquel on se prépare, c'est l'association, c'est d'habituer au fond les hommes à associer leurs forces aux puissances intermédiaires. Ou à associer les puissances intermédiaires aux forces humaines. Si vous préférez, les puissances intermédiaires, ce sont les anges déchus. Hein. On parlait de Raël hier, on parlait de certains noms. J'ai eu ici la visite d'un monsieur. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous étaient là ce jour-là. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Et il est arrivé et il disait, voilà, je vous montrais des photos magnifiques et tout ça, des phénomènes de lumière dans les photos qu'il prenait et tout. Il aimait beaucoup de bon Dieu, le Seigneur, Jésus, la Vierge, tout ça. Il y a eu une osmose, ils se sont approchés de moi, ils m'ont proposé de venir avec eux, je suis parti dans le vaisseau. Et voilà, et puis donc voilà, et bon, ben, c'est quand même intéressant. Et dans le vaisseau, il s'est passé quoi et tout, oui, c'est quand même extraordinaire. Parce que... Alors, il m'a dit, mais moi ça va très bien, vous savez, je suis. Hein. Et à un moment donné, on discute, on prie, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, c'est quand même assez étonnant, mais vous me croirez si vous voudrez, mais à un moment, ses yeux sont devenus métalliques et jaunes. Mais ça a duré une seconde et demie, hein, pas beaucoup plus. Et il a vu que j'ai vu que d'un seul coup, ça fait « sting ». Comme exactement, même dans un film, on n'oserait pas mettre ça, parce que disons, c'est un peu gros, quoi. L'artificiel est trop gros, c'est vraiment X-Files au cube. On voyait bien qu'effectivement, il y avait donc une une cohabitation avec les puissances métalliques, des puissances télékinésiques, des puissances intermédiaires, qui sont capables, bien entendu, de cristalliser dans un être humain le métallisme des énergies du paranormal, des fameux cinq métaux libres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qui sont capables, effectivement, de concrétiser. Hein?
Cette semaine,
mon père? Oh non, non, mais moi, vous savez, c'est toutes les semaines que je fais des gens. Alors. Pour l'instant, je me contente de vous recevoir. Pardon ? Oui, oui, tout à fait. Donc, je tiens à vous signaler quand même qu'il y a toute une panoplie donc, de choses qui se mettent en place et qui font que si quelqu'un n'a pas mis en place son corps spirituel parmi les chrétiens, il est perdu. C'est-à-dire qu'il appartient à l'Antichrist, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Voilà. Et bien c'est ce qui est marqué du reste dans le livre de l'Apocalypse, là, dès que l'avertissement sera donné, c'est-à-dire dans les semaines ou dans les jours qui vont suivre le fameux Sikutsim Meshomem, hein, donc le pont-levis est levé, c'est le deuxième mois, stop, quand on va tomber et que ce sera mondial, là ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le fameux coup de trompette de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Tout le monde le sait. Enfin, personne ne le sait, mais c'est pas grave. Mais les Illuminati, eux, ils le savent. Monsieur Bush, papa, il le sait très bien. C'est parti de la tête Illuminati, c'est parti du groupe des 300, hein, par exemple. Les Skull Bones, donc, ils le savent très bien, tout ça. Et les Wesop, ils le savent très bien, puisqu'ils sont en train, en fonction de ça, à récupérer le matériel. Le matériel humain, justement. Donc ils se préparent, eux, à savoir comment on va récupérer le matériel humain. Pourquoi? Parce qu'ils savent très très bien un principe que le démon connaît très bien aussi, bien entendu, à savoir que si vous avez un volcan, voyez, si vous avez un volcan qui lance sa lave, que comme pour Tchernobyl, vous mettez des tonnes de béton par-dessus, pour le couvrir, pour qu'il ne donne plus ça là. Je m'excuse, le volcan, c'est pas vous qui allez quand même contraindre la puissance du volcan. Mettez une grosse passe de béton au sommet, ne vous inquiétez pas, ça va péter par le côté. C'est évident. Donc ça, c'est tout le monde sait ça. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas comprimer l'amour de Dieu dans le monde. Donc, puisqu'on met une grosse couche de béton avec la loi d'abomination mondiale, comme l'ange Gabriel l'a expliqué au prophète Daniel, il l'a expliqué vraiment dans le détail, hein, il a dit, puisque quand ils feront ça, à ce moment-là, il va y avoir, premièrement, ce qu'il a appelé un méchaume universel, c'est-à-dire une désolation métaphysique jusqu'à la fin du monde. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer en quoi consiste la désolation métaphysique. En un seul mot, c'est la rupture des champs morphogénétiques de la collectivité humaine et de chaque individu en particulier dans sa respiration spirituelle du corps originel. Hein. C'est ça, la désolation métaphysique jusqu'à la fin du monde. C'est une espèce de brisure de l'assiette de notre corps originel, si vous voulez, de notre capacité, si vous préférez, à retrouver, mais physiquement, notre oui originel pour la spiritualisation du corps. Et pour l'union transformante jusqu'au bout, pour notre participation jusqu'au point de vue physique, au corps mystique de Jésus entier. Donc le combat va jouer au niveau eschatologie au niveau du corps, comme l'explique l'Apocalypse, puisque c'est la terre s'ouvre devant le dragon pour avaler les eaux dégueulées par le dragon pour noyer l'enfant que la femme est en train de mettre au monde, voyez. Donc ça, les pères de l'Église ont commenté ça depuis longtemps, donc on sait très bien de quoi il s'agit. Le combat joue sur le point de vue de la terre spirituelle, c'est-à-dire sur le point de vue de la terre, c'est-à-dire sur l'aspect physique du corps spirituel capable de recevoir ce qui dans le corps mort de Jésus porte le Verbe de Dieu, voyez. Donc ça, c'est là que joue le combat. C'est là-dessus, c'est avec ça que l'Antichrist sera anéanti. Donc tout est encerclé pour empêcher les chrétiens de vivre à ce niveau-là. Donc si les chrétiens ouvrent un tant soit peu quelconque porte par recherche de pouvoir, recherche de dons particuliers, qui eux-mêmes sont des portes ouvertes sur quelque chose qui est en dehors de la mise en place du corps spirituel ou du corps originel, ceux-là sont perdus, ils sont gagnés à l'Antichrist à l'avance. Et ils n'en pourront rien. Hein. On aura beau les tenir par comme ça. Comme dans les films, vous savez, où il y a des... Puis ils partiront, on sera obligé de lâcher. Hein. Et le partage des eaux se fera là. Vous voyez, c'est 666 sur le front, ou bien le signe par lequel sont marqués sur le front. Ça, on sait très bien en quoi tout ça va consister. Donc, lorsque... ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, pour ça que je vous ai montré les passages du film du Day After Tomorrow l'autre jour, il y a 4 jours, pour voir comment ils utilisent les prophéties chrétiennes pour montrer la manifestation physique de différentes choses qu'ils savent, eux, faire, provoquer, hein, qu'ils savent provoquer, de manière à provoquer, à donner dans la simultanéité des choses qui normalement doivent être successives. Je peux provoquer, qui ne sait pas que par exemple le tremblement de terre d'Iran d'il y a 2 mois a été provoqué par le rayonnement des réseaux ARP. C'est tout le monde, je suppose que vous le saviez. Je veux dire, si, quand même, bon, c'est des trucs, ils l'ont même dit, ils ont dit aux Iraniens, écoutez, vous êtes priés de faire ça, sinon, les Iraniens ont dit non, 2 jours après, tremblement de terre. Ils ont fait leurs 8000 morts. Les Iraniens, du coup, ils se sont calmés. Parce qu'en Iran, en Irak, tout ça, vous inquiétez pas, ils savent très bien que les Arabes saoudites savent très bien que ces armes sont maintenant. On peut très bien aussi exciter bon, peu importe. Si c'est depuis longtemps qu'on s'entraîne, mon frère est habité à Vienne, et il habitait à Sainte-Colombe, de l'autre côté du Rhône, oui. Et il y a la cathédrale de Vienne qui est du côté donc de la rive est. Et lui, il habitait à la rive est. Et il avait un de ses voisins, enfin, qui disait, c'est curieux, au moment de l'heure de la messe à la cathédrale, il avait une maison là. Le type, c'était un franc-maçon ésotérique, etc. Il était chargé, il avait un appareil qui bombardait tous les fidèles qui étaient, parce que là, l'ouverture de la cathédrale était de l'autre côté, quoi, la porte de la cathédrale, et au moment de la messe, tous les cathos étaient bombardés par des fréquences illuminatives et autres, dans une maison qui était de l'autre côté du Rhône. Alors évidemment, si tant est qu'ils avaient été voir un magnétiseur, un ostéopathe fluidique, etc., qui avait fait de la mésothérapie ou de la kinésio, je crois, tous les tacato qui étaient là, je veux dire, ils pouvaient être conditionnés, et ils l'étaient en effet. Et il y avait des phénomènes extrêmement repérables à chaque bombardement. On associe au fond des bombardements métapsychiques par rayonnement, disons, que je ne saurais pas vous expliquer, mais on y associe bien sûr les puissances intermédiaires. Voyez. Et il ne faut pas. L'autre jour, quelqu'un me dit il y a un mois, voilà, je suis rentré avec Libellule. Hein, je suis rentré avec Libellule, elle nous a montré où dans le Sacré-Cœur. Où dans le Sacré-Cœur, ils avaient placé, elle savait. Comme par hasard. Donc, où dans le Sacré-Cœur, on avait placé les petits récepteurs. Alors, tu regardais. Voilà. Et donc, eux, horrifiés, ils ont enlevé les récepteurs, des bombardements qui se faisaient à fréquence régulière, les moments qu'il fallait. Bon, Libellule, elle a pu leur montrer, parce qu'ils changent régulièrement, évidemment, et de technologie et d'expérimentation. Bon, je parle de Libellule parce que certains ont connu. Vous connaissez cette personne, ce personnage tout à fait extraordinaire, parce que l'Église est remplie de gens qui font partie, qui sont des infiltrations, on appelle ça des taupes. Nous appelons ça des taupes et on leur donne toujours un nom de code. Bon, c'est pour vous dire que ce soit dans le cœur même de l'Église, que ce soit dans quelqu'un m'a dit au niveau politique, quelqu'un qui travaille dans les ministères, il dit que c'est quand même assez curieux que quand on a des dossiers qu'on doit discuter au ministère, qui sont des dossiers extrêmement délicats et importants, tout le monde, tous les gens qui travaillent dans le ministère, dans nos bureaux, etc., sont dans un état de folie furieuse. Et ça dure pendant 10 jours. Pendant 10 jours, puis on a envie de vomir, se tirer, on s'engueule, etc. Enfin, on ne peut pas travailler, strictement impossible de travailler. Puis au bout de 10 jours, c'est fini. Quand j'ai donné mes dossiers sur le clonage pour M. Cellier, qui est catholique, parce qu'il a connaît son fils qui est prêtre, tout, qui va bien. Bon, je lui ai donné tous les trucs, je lui ai expliqué, voilà, c'était dans le connasse, vous allez pouvoir quand même dire, voilà, regardez quand même cette fois, voilà, voilà le texte, il est là, voilà. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdiction du clonage ou ça veut dire autorisation du clonage reproductif? Ça veut dire autorisation, non? Alors il dit, bah oui. Alors il a fait vérifier le texte par ses experts, il a dit, bon, bah, c'est clair, bon, bah, on va s'en occuper. Et son fils m'a dit, pendant, on s'est dit au revoir, ciao, ciao, on a eu des imprudences parce qu'on a parlé au téléphone. On a parlé au téléphone, j'ai dit, bon, le texte que vous envoyez, j'espère que si, que là, que machin. On a parlé une fois, peut-être, une fois au téléphone. Moi, je vous écoute en permanence. Hein. Donc, ils ont repéré, et d'où se place catholique pratiquant, une famille catholique pratiquante, ça. Et donc, ils ont repéré que lui, il pouvait tout faire, tout foutre en l'air à lui tout seul. Et il suffisait qu'il dévoile ce qu'il y avait dans la réalité du texte, et ça y est, je veux dire, on ne pouvait plus dire, voilà, nous, on dit que le clonage reproductif est interdit, alors que justement, on l'autorise. Bon, alors, eh bien, son fils m'a dit, pendant 2 mois, mon père n'a pas pu prendre un stylo et un papier. Alors, que ce soit un individu, que ce soit un groupe, que ce soit un truc, on peut facilement, dans le monde nouveau, c'est pas l'objet de notre session d'aujourd'hui. Il va falloir que nous apprenions, nous, à, par le rayonnement du règne du Sacré-Cœur et le rayonnement à partir de la mise en place du corps spirituel, à, anéantir, si je puis dire, anéantir, c'est pas inhiber, mais comment dire, anéantir, c'est pas anéantir, c'est dégager, parce que si vous mettez quelque chose du corps spirituel dans une assemblée où il y a ces 5 concentrations de tir pour faire que la décision soit emportée dans le sens de l'Antichrist, il suffit qu'il y ait une seule personne qui même de l'extérieur rayonne sur cette assemblée pour dégager le réseau Hartmann correspondant avec tout ce qui correspond.
Ah, hein.
C'est pour rendre libre. Je signale aussi. Bon, parce que ça fait combien de fois qu'on me rappelle, on me rappelle les oreilles, et ça commence à me faire chier, m'excuse du mot, mais avec l'histoire de réseau Hartmann. Bon. Alors, le réseau Hartmann, vous allez dans une maison, et puis voilà. Voilà. Bon, très bien. Vous allez dans une maison et la maison, elle est, toute la terre est couverte par un filet qui épouse des champs telluriques, etc. Et ah bon, vous avez un cancer, vous vous sentez mal, mais oui, c'est normal, votre fil dans la maison, il est juste en place sur les Hartmann, sur le fil. Alors, je vais prendre mes pendules. Oh, tiens, ici, il est là, très bien. Il est là, donc je détermine où sont les fragments, ça. Ben, si vous voulez bien, c'est très simple, je vais vous aider. Voilà, je vais vous aider. Voilà, ben, votre lit, vous le mettez dans un directionnel différent, voilà. Voilà, vous n'avez plus de problème. C'est quoi le Hartmann?
C'est un champ de force.
Il vient de la nature, le réseau Hartmann. Hartmann, il vient de la nature, le réseau Hartmann.
Moi, je croyais. Il était naturel.
Oui, ça ne m'étonne pas que vous le croyez. Bon, alors, eh bien, vous vous trompez. Il vient pas de la nature.
Il est très lourd parce que j'en ai fait l'expérience d'une maison pour l'acheter. Oui. Et je sentais cette lourdeur. Mais moi qui aime la nature, je me disais, c'est bizarre.
Bon, alors.
Avec le discernement, je me disais justement, c'est bizarre que les énergies de la nature soient si lourdes, si négatives.
Alors,
désagréables à
supporter. Elles sont destructrices, vous comprenez. Ça, parce que c'est pas ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est du monde, la culture de mort, la manipulation des champs, la manipulation des champs telluriques, l'utilisation télékinésique des métaux, etc. Et aussi des champs tachyoniques universels. Vous croyez que ça date d'aujourd'hui? Attendez, ça fait 30-40 ans qu'on travaille ces trucs-là, même avant déjà.
depuis Blavatsky, on connaît très très bien tous ces trucs-là, tous les réseaux arcanes, ils n'arrêtent pas d'utiliser ça. Alors petit à petit, effectivement, on peut donner autorisation, maîtrise, pouvoir sur les puissances intermédiaires pour utiliser les champs telluriques et petit à petit installer partout leurs filets. Donc les filets, où tous les exorcistes savent ça. Le moindre prêtre exorciste connaît cette histoire, le filet. La différence qu'il y a entre la possession, l'obsession, l'incréptation, l'enveloppement. Donc, l'enveloppement diabolique, du point de vue simplement de l'ordre d'un pays ou d'une cité ou d'une maison, l'enveloppement se manifeste par le redoutement. C'est tout simple. Si vous, c'est un phénomène d'enveloppement diabolique qui utilise, bien entendu, on est d'accord, les circuits telluriques, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que vous ne pouvez pas nier, on ne peut pas nier que c'est un phénomène d'enveloppement. Quelquefois, on s'en sert quand quelqu'un, il rentre à l'église, il se confesse, il commence à vivre des sacrements, et puis il sent comme une toile très très fine sur lui, là, comme une toile d'araignée, vous voyez, comme ça. C'est un exorcisme qu'il faut. Le filet s'est rompu, nous sommes, nous avons échappé. Alors, moi, je vais aider quelqu'un qui est dans sa maison. Il a son réseau Hartmann dans sa maison. Voilà sa maison. Voilà sa maison. Là, ça m'amène. Écoute, reste dans ta maison surtout. Hein. Je vais bien regarder où est ton réseau Hartmann. Avec mes pendules, bien entendu. Hein. Pendant ce temps, j'en prends plein la gueule. Hein. Bien sûr. Avec ton pendule, tu prends des pendules, tu vois. Et puis, tac, tombe sur le réseau Hartmann. Et attends, Jean-Man, et le pendule, il est récepteur, et toi qui es récepteur du pendule, c'est toi. Ouf ! Pour commencer, déjà, toi t'en prends pas la gueule. Bon, en plus, tu dis, restez donc bien dans votre maison, je vais vous apprendre à rester et à être bien. Dans les filets du démon. Ça, tu l'as pas mal aidé, hein. Non, mais je vous dis, les gens sont tarés, moi, aujourd'hui. Alors,
je ne comprends pas, le réseau Hartmann, c'est où? C'est quelqu'un qui le met?
Pas. Bon, je viens de passer un quart d'heure à expliquer, si tu permets, alors, donc je ne reprends pas. Alors, maintenant, si... Maintenant, c'est pas un champ naturel. Je viens d'expliquer que ce n'est pas un champ naturel. C'est un champ télékinésique provoqué par la puissance intermédiaire, d'accord? Il y a des techniques pour le faire s'écouter, ces trucs-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je m'excuse. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas me laisser envelopper par le démon, ni pénétrer par lui, ni envelopper par lui. Donc, d'abord, mes pendules, je les donne au premier prêtre que je vois. Je ne le jette pas dans la rivière, je ne le mets pas dans un sac poubelle. Ou, si vous voulez, je mets dans un sac poubelle, si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, je me débarrasse des instruments par lesquels je suis récepteur et amplificateur de toutes ces attaques qui sont de partout et qui passent par des gens de très très bonne volonté, avec leur sincérité maladive, si fort. Et si après, ils tombent malades et qu'ils rentrent dans l'esprit de celui qui veut mettre à mort tous les hommes, hein, l'esprit de mort rentre en vous. Hein. L'esprit de mort rentre en vous, vous traînez l'esprit de mort comme on traîne une casserole, ça rentre automatiquement. Alors, dans une maison, vous rentrez dans une maison chrétienne.
Oui.
Ah, vous rentrez dans une maison chrétienne, voilà, vous rentrez dans une maison chrétienne. Dis mon père, vous ne pourriez pas venir à ma maison? Bah, bien sûr, je peux venir à ma maison, bien sûr, on va venir à la maison. Oui. Ah, on va venir à la maison, on va consacrer la maison. On va consacrer la maison à Marie. Ah, on va faire l'intronisation de Marie-Reine. On va introniser Marie-Reine, on va faire comme le petit moine à la gare d'Austerlitz, consacrer Marie-Reine et ça va faire... ça va dégager tous les rayonnements d'esprit orange. Il me semble que quelqu'un a reçu un jour un esprit orange dans la tête. Oui, c'est vous, je crois. Alors, donc, je crois que c'est vous, oui. Un sacré esprit orange, vous avez chopé. Bon. Alors, comment est-ce que c'est? Donc, regarde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, voilà. qu'est-ce qui va se passer dans ma maison chrétienne? Bon, voilà, ma maison chrétienne, la voici. Voilà, une minute volume de déchets. Mon réseau Arman était ici. Voilà, bon, je schématise, bien sûr. Hein. Bon, mais si ma maison est chrétienne, je m'excuse, qu'est-ce qu'il va faire, réseau Arman? Eh bien, il va faire comme ça. Hein? Voilà, c'est tout. Hein, et dans la maison, rien du tout. Si en plus vous mettez une croix. Bon, si en plus vous mettez du sel béni aux quatre coins, là. Je dis, on aurait. Hein, aux quatre coins, nord, sud, midi, est, ouest.
Des médailles.
Alors à ce moment-là, vous l'éloignez à 2 ou 3 kilomètres. Vous allez voir si vous faites venir le mec avec ses pendules. S'il va voir que le Resortman, s'il est chez vous, vous verrez qu'il ne verra rien du tout. Il n'y aura pas de Resortman du tout. Il n'y en aura pas.
Bon. C'est pourquoi les sourciers ne trouvent rien à Manola.
Bon. Oui, non, après.
Il y avait pas qu'il y a 5 minutes, il a dit d'aller manger, que le poisson était fait. Il fallait absolument.
Non, merci, frère. Bon, alors, il faut faire attention. Pas faire n'importe quoi. Faire attention. Je vous le lis, tant pis, pour la spiritualisation du corps, on verra ça demain. Alors.
Non.
Écoutez, de toute façon, c'était prévu que le sel tamni qui est le plus important, tout le monde sait ça. Alors, c'est là, puisque c'est là qu'on fera les consacrations, la remise des dons, les prières de délivrance, ce sera samedi après-midi. Hein. On est venu pour ça, on est venu pour samedi après-midi, on n'est pas venu pour les autres jours. Alors, les autres jours, c'est pour voir toutes les bêtises. Bon. Alors. La dernière guérison, soulager le mal, donner la paix. La dernière fois que Jésus sur la terre a fait une guérison. Je vais vous lire le récit d'une sainte que le pape va canoniser le 3 octobre.
Anne-Catherine
Emmerich. Il va canoniser en même temps que l'empereur d'Autriche, qui est mort en 1935, Charles d'Ops. Le 3 octobre. C'est un événement historique, la canonisation d'Anne-Catherine Emmerich. Alors, elle a vu, le Seigneur lui a montré, comment, vous savez, ce possédé là que Jésus exorcise. Peut-être qu'on vous donnera la photocopie de ce truc, qui est quand même assez... ou alors vous irez sur le site http://.
Catholique,
oui. Vous avez tous les livres, tous les récits d'Anne-Catherine Emmerich, de Saint-Catherine Emmerich. Oui, mais alors, vous pouvez l'imprimer. Tu as aussi le mystère de l'ancienne alliance. Alors, je vous le lis quand même. Il faut savoir par cœur ce texte. C'est quand même à la fin, page 63 de cette édition. De là, Jésus se rendit à Béthanie. Je voulais terminer par ça avant qu'on passe la table. Je vous préviens qu'à table, nous passons la table en silence aujourd'hui. Les malades, je vous préviens à l'avance pour chasser les démons du bruit. Alors, les malades qu'il avait guéris et beaucoup de leurs parents l'y suivirent. Le bourg fut en grand émoi tous ces ans, puis ils publièrent partout leur bonheur de voir Jésus. J'eus ensuite une grande et merveilleuse vision touchant ce démon que le Seigneur chassa près de Béthanie, la dernière fois où Jésus, avant d'aller faire un miracle sur un être humain, parce qu'il y a eu le figuier aussi après. Je ne saurais la reproduire d'une manière suivie. C'était une succession de tableaux. Vous allez voir comme ça rentre vraiment dans notre sujet. Des tableaux qui se perdaient les uns dans les autres. En considérant les trois nœuds lois. Oui. Non, je recommence. Jésus délivra un possédé. C'était un jeune homme dont les parents coururent au devant du Seigneur au moment où il entrait dans leur village.
Jésus les suivit dans la cour de leur maison où se trouvait leur fils, qui, à son approche, devint furieux, bondit de rage, escalada les murs. Vous voyez, c'est comme c'est la dernière exorcisme. C'est donc la prophétie de cette espèce d'exorcisme que feront les chrétiens ensemble, dans le corps spirituel mis en place et uni par le Saint-Père, dans le règne du Sacré-Cœur, par rapport à l'Antichrist. C'est ça qui est... C'est notre fonction, ça. C'est nous. Ça, ce ne sera pas nos enfants, ce sera nous. Le corps mystique du Christ, voilà ce qu'il doit faire. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant sur le plan, de l'enseignement. Les gens qui étaient là voulaient se saisir de lui, mais ils ne purent y parvenir, il escaladait les murs, sa fureur allait toujours croissant, et il déchirait à belles dents tous ceux qui l'approchaient. Vous voyez, c'est comme on va rigoler, quoi. Hein. Tous ceux qui essaient d'approcher l'humanité, hein, son ensemble possédé, à l'humanité va vous déchirer à belles dents, escalader les murs. Vous voyez ce que c'est que les murs, en point de vue du truc, quoi. Bon, ok. Alors... Alors le Seigneur ordonna à tous les assistants de sortir et de le laisser seul avec le possédé. Dès qu'ils se furent tous éloignés, Jésus commanda au jeune homme de venir à lui. Mais celui-ci ne vint pas et tira la langue au Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous apprend à tirer la langue, là devant la photo là-bas. Ce dernier l'appela une seconde fois. Vous voyez, il y a une bonne sœur là-bas qui vous apprend à tirer la langue. Ce dernier l'appela une seconde fois. Mais il refusa toujours de venir et se contenta de le regarder en lui tournant le dos. À ce moment, Jésus leva les yeux au ciel. Ah, voilà, acte d'adoration, hein. Allez, c'est extraordinaire. Acte d'adoration. Et pria, cette fois le possédé vint à son commandement. Vous voyez, tant que vous n'aurez pas réveillé le corps spirituel, le corps originel, dans un acte d'adoration 700 milliards de fois, dans une seule demi-seconde, en lien avec votre inscription dans le livre de vie, dans votre corps spirituel, vous n'aurez aucune source du rayonnement du règne du Sacré-Cœur sur votre maison, votre entourage, vos enfants, votre cité, votre ville, etc., votre église, votre paroisse. Il leva les yeux au ciel. Aussitôt, le possédé vint à son commandement. C'est extraordinaire, ça. Aussitôt. Ouais, ça c'est... Dès qu'on a mis en place le corps spirituel, ça l'est. Ils sont à nos pieds. On leur pose le pied dessus. Comme on voit Saint-Michel Archange. Ça y est, on a le pied posé dessus. Et il se jeta à ses pieds de tout son long. Le Seigneur passa sur lui un pied, puis l'autre. Et il fit cela deux fois, comme s'il lui marchait sur le corps. Allez, retour. Je vis alors sortir de la bouche du possédé comme un tourbillon de vapeur noire qui se dissipa dans l'air. Dans cette vapeur, je distinguais trois nœuds. Hein, il faut apprendre à couper les liens. Il faut enlever les liens avec les dons qu'on a déjà reçus. Si tu as reçu des dons, il faut les donner, ces dons. C'est des nœuds. Et vous allez voir à quoi ils ressemblent, ces dons. Ces nœuds. Ça, c'est demain qu'on fera ça, hein, parce que... Dans cette vapeur, je distinguais trois nœuds, dont le dernier était le plus sombre et le plus épais. Ces trois nœuds étaient joints ensemble par un gros fil et par plusieurs autres plus déliés. Un petit peu comme dans le schéma du corps que tu viens de nous donner à photocopier. Je ne puis comparer le tout qu'à trois encensoirs superposés, laissant échapper par des ouvertures des nuages de fumée qui se réunissaient eux-mêmes les uns aux autres. Elle a une puissance de description extraordinaire, hein, ça c'est vrai. Le possédé était étendu au pied du Seigneur, sans mouvement et presque sans vie. Jésus le bénit de sa main, comme par un signe de croix. Puis il étendit le bras vers lui en lui ordonnant de se lever. Alors le malheureux jeune homme se leva, il était nu et pâle comme la mort. Jésus le conduisit vers la porte de la cour, le rendit à ses parents. Donc maintenant on va aller voir ce qu'il y avait dans les trois nœuds. Donc c'était une succession de tableaux que je voyais dans ces trois nœuds qui se perdaient les uns dans les autres. En considérant les trois nœuds noirs enlacés, je pénétrais de plus en plus dans les détails de la vision qui finit par m'expliquer tout le monde inscrit à l'intérieur de ces nœuds. Il me semblait voir d'abord une ombre en mouvement. Ensuite, je reconnus l'ombre d'un homme, puis une forme humaine dont on pouvait distinguer les membres et même tout l'intérieur. Vous voyez la médecine holistique. On voyait le cœur, le cerveau, tous les autres organes avec leurs fonctions. On pénétrait toutes les pensées, sentiments et les actes. On visitait le corps et l'âme de cet homme qui d'abord n'avait paru qu'une ombre et dont on voyait enfin les rapports qu'il avait avec ses semblables. Vous voyez, ça, sa représentation au fond de l'humanité que à partir de la loi d'abomination, le démon aura pouvoir de pénétrer entièrement. Vous voyez, au fond, c'est le corps mystique de collectif. Il y aura l'Antichrist et puis le corps mystique collectif de la pieuvre noire qui sera comme un petit peu comme l'Église. Vous avez Jésus et le corps mystique du Christ qui est effectivement un homme rempli de collectif, comme dit sainte Edith Stein. Mais c'est le corps entier de Jésus vivant entier. Et alors, vous avez la grimace, justement, après le Sikkhut Simesh même, qui va, sur le point de vue duquel nous allons assister de nos yeux. Alors, il y a cette espèce d'humanité-là. Ce corps collectif, où le corps lui-même des gens qui sont marqués par le chiffre 666, en font partie, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. Peut-être non, tout le monde. Bon, alors. Même nous, si on a des dons, hélas. Bon, alors, on pénétrait toutes les pendules. Dans ces trois nœuds, dont les teintes noires différaient entre elles, je vis diverses subdivisions qui prirent sous mes yeux la forme de jardins dans lesquels j'aperçus toutes sortes d'affreuses choses. Ensuite, je distinguai des petites figures, puis des hommes, et tout cela m'apparut comme la succession des différents règnes de la nature dans sa formation et dans son activité. Les jardins formaient maintenant diverses sphères d'action et d'opération, qui étaient en même temps simultanées, conjointes, en même temps que distinctes, et reliées les unes entre elles comme des vases communicants. Quand la vision fut arrivée à ce degré de développement, je ne vis plus les nœuds circulaires suspendus en l'air, mais tout cela était devenu comme un monde à lui tout seul. J'aperçus aussi des cercles lumineux opposés à ces sphères ténébreuses qui les séparaient. Il en sortit des hommes qui passaient d'un cercle dans un autre cercle et dans les cercles ténébreux. Quand ces sphères se présentèrent à mes yeux sous la forme de monde plein d'hommes et de vie, je distinguais des églises de ténèbres. Dans la sphère ténébreuse la plus basse, je vis un culte abominable rendu aux démons en guise d'autel d'un monticule, un monticule derrière lequel était un trou où d'énormes bûches entretenaient un brasier ardent, l'enfer. La flamme y était d'un rouge sombre et la fumée se dirigeait en bas vers la terre. La fumée, au lieu de monter au ciel, c'est pas mal. Bon, alors, oui, c'est l'inversion. Toutes les cérémonies, toutes les prières semblaient se diriger vers celui qui trône en bas. J'aperçus là une espèce de sanctuaire et comme un sacrifice. Ce n'était qu'outrage, profanation, abomination et infamie. Il y avait tout un cérémonial en l'honneur du démon. Je ne puis exprimer tant d'horreur. Autour de ce genre, de ce centre infernal, on voyait des personnes qui faisaient bouillir dans de grandes chaudières avec d'autres choses hideuses, des plantes. Hein? C'est formidable. Des plantes dont je savais les noms. Bah oui, bien sûr. Comment est-ce que vous appelez ça, là, les pharmacies, là?
Hein?
Iso,
je
ne
sais pas quoi là.
Ah non,
phyto,
pas
phytothérapie.
Non, pas phyto, non, phyto, c'est naturel.
Non,
les fleurs de Bac là, les
lettres.
C'est chargé ça. Mais non. À pharmacie, on appelle ça comment là, quand vous achetez?
Bon, les compléments alimentaires,
Ça s'appelle bien fleur de Bac, comment ça s'appelle?
Les
olivos,
ça existe?
Oui, tout ça c'est chargé. C'est chargé, c'est avec des plantes, mais chargé. Mais oui, mais les plantes ne sont pas forcément chargées, mais celles qu'on appelle comme par exemple, les minéraux, tout
c'est
ça, c'est chargé. Les trucs de Saint-Hildegarde, quand on vous les vend, ils sont toujours chargés. Quand c'est des élixirs de parfum, je sais, je connais quelqu'un de très 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 bien, je connais très très bien quelqu'un qui m'a expliqué, il a fait des stages, comment on faisait pour les charger.
L'huile essentielle.
Mais je connais quelqu'un très 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 bien. Mieux, je peux pas connaître.
On demande de manger maintenant parce que je crois que ce sera plus bon si on attend.
Oui.
On a tout préparé.
D'accord. Oui, mais on arrive. Je termine vraiment. Remarquez, on peut continuer la lecture pendant le repas.
Voilà, c'est la nourriture.